en ce jour, ou remontons dans l'Antiquité sacrée.
Passion Antiquité.
Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide ?
Oh non.
Une odyssée de 3500 ans d'histoire.
On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça.
Quand on pense à l'Antiquité, on pense parfois au Colisée, à Astérix le Gaulois et aux momies égyptiennes. Mais c'est aussi la Mésopotamie, l'âge de fer, l'épigraphie, les Araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant notre ère et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours un petit peu floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel, des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S Antiquité, vous commencez à le savoir, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 20, Yuan et les offrandes dans l'Italie pré-romaine, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de religion et d'offrandes, et ce n'est pas la première fois en tout cas qu'on parle de religion dans ce podcast. Rappelez-vous, dans l'épisode 18 avec Mathilde Nard, on a parlé d'Apollon, ou alors dans l'épisode 14 aussi, on a parlé avec Axel Lamour des cultes gentilis. Mais aujourd'hui, on va parler des cultes, mais d'une façon un peu plus précise. Et notre guide temporel, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est Yuan Wall. Bonjour Yuan.
Bonjour.
Alors, je te reçois parce que tu fais une thèse sur le sujet. Alors, attention, les offrandes miniatures dans l'Italie pré-romaine forment contexte pratique 8e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Tu es sous la direction de Olivier de Casanova depuis 2019 et donc tu es chargé d'études et de recherches à l'Institut National de l'Histoire de l'Art, donc le fameux INHA, et donc tu es en thèse à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Alors déjà, première question un petit peu générale. Comment est-ce que tu t'es intéressé à l'histoire et qu'est-ce qui t'a donné envie d'étudier l'histoire antique ?
Alors, en fait, j'ai toujours été intéressé par l'histoire depuis que je suis tout petit. Alors après, quand on est archéologue, une phrase qu'on entend souvent les gens dire, c'est « Ah, vous êtes archéologue, moi aussi, je voulais faire ça quand j'étais enfant. » C'est vraiment systématique, ou presque. Moi, c'est pas vrai. Je voulais pas être archéologue quand j'étais enfant, mais j'étais intéressé par ça. Je lisais beaucoup de livres dessus. Et donc, à la fin de mon bac L, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai postulé à Paris à toutes les licences de sciences humaines et sociales qui existaient. Et je suis allé faire de l'histoire à Paris 1, parce que c'est les premiers à m'avoir accepté. Et donc, à partir de là, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait mes différentes périodes historiques. Je suis passé en double licence avec l'archéologie.
Pourquoi s'ennuyer, tu vois ?
Voilà, bah, j'ai adoré un cours d'initiation à l'archéologie que j'ai fait. Je me suis donc inscrit en deuxième année de double licence. Il fallait faire des fouilles. J'ai fait des fouilles où là encore, j'ai postulé à toutes les fouilles qui existaient et je suis allé aux premiers qui m'ont accepté. Il se trouve que c'était la fouille de Alice Saint-Rennes, du site archéologique d'Alésia, dirigée par mon actuel directeur de thèse. On s'est bien entendu et donc je suis parti en master avec lui et donc maintenant en thèse avec lui aussi.
Oui, donc un parcours, oui, vraiment de passion. Bah, c'est bien, ça tombe bien, c'est le titre du podcast.
Voilà.
Et pourquoi est-ce que tu as voulu étudier les offrandes miniatures ?
Alors, les offrandes miniatures, en fait, j'avais fait mon M1 et mon M2 déjà sur l'Italie pré-romaine, mais sur le funéraire. Je voulais faire des tombes et donc j'avais fait...
Dit comme ça, c'est un peu chelou quand même.
Voilà, c'est ça.
Je voulais faire des tombes, oui, mais encore.
Les tombes me passionnaient, j'aimais. Pour moi, c'était le contact avec l'humain au plus près.
Mais mort, mais oui, d'accord, je vois.
Certes mort, mais bon, ils sont morts, ceux de l'Antiquité, donc là, au moins, on pouvait les toucher. Donc, je suis allé, j'ai fait un M1 et un M2 d'archéologie funéraire sur le phénomène de l'austérité funéraire dans l'Italie pré-romaine, au 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, en fait, les tombes dans lesquelles il n'y avait rien du tout. Arrivé à la fin de mon M2, je savais que je voulais continuer en thèse, mais j'avais fait le tour pour ce qui me concernait de l'archéologie funéraire, c'est-à-dire que j'avais exploré ce qui m'intéressait moi dedans. Je ne prétends pas en avoir fait le tour, bien sûr, mais moi je ne voulais plus faire ça. Je préférais en fait toucher du mobilier, du vrai mobilier, et j'avais effleuré cette question des miniatures car il y en avait dans les tombes. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait une question intéressante là, et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et je l'ai ressorti quand il a fallu trouver un sujet pour ma thèse.
Et je me demandais, est-ce qu'il existe peut-être des clichés sur les offrandes miniatures auxquelles tu étais confronté au début de tes recherches ?
Des clichés, disons, de culture générale, pas beaucoup, parce que c'est pas une des grandes choses de l'Antiquité, les offrandes miniatures. Des clichés dans la littérature scientifique, oui, beaucoup. En fait, c'est une question qui a été relativement peu étudiée pour elle-même, et donc il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que ce serait des offrandes pour des gens pauvres, ou que ce serait forcément des offrandes d'enfants, ou que ce serait forcément des offrandes, d'ailleurs, les objets que j'étudie. Tout ça, c'est des clichés, mais disons des clichés parmi les scientifiques, pas des clichés parmi les gens qui ne sont pas spécialistes.
Alors toi, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse ?
Alors déjà, une des idées fondamentales, c'est que mon titre est un peu trompeur et que toutes les objets miniatures de l'Italie ne sont pas forcément des offrandes. Ça, pour moi, c'est important. C'est une distinction qui est importante à faire entre des offrandes votives et le matériel qui sert à faire le culte, mais je pense qu'on va y venir. On va parler un peu de la définition d'une offrande.
Tout à fait.
Et puis, j'aimerais aussi proposer aux autres chercheurs un outil de travail. En fait, en archéologie, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de thèses. Il y a des thèses, entre guillemets, à thèse, donc où on étudie une question de façon précise, voilà, donc les offrandes miniatures par exemple. Et il y a des thèses outils où on met à disposition de la communauté scientifique un outil, par exemple une typologie. Donc dans sa thèse, on pourrait étudier toute une production, les offrandes miniatures par exemple.
Comme une étude de cas en quelque sorte.
Voilà, une étude de cas. Donc on étudierait tous les vases de tel site ou tous les vases à vernis noir. On proposerait une typologie et on donne cet outil-là au service de la communauté. Et après, du coup, la communauté, si moi je trouve en fouille un vase en vernis noir, je peux regarder la thèse d'un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Morel en 1981, qui a fait une thèse là-dessus, qui a décrit cette forme, et donc moi ça me permet de savoir de quand elle date, où est-ce qu'on l'a trouvé d'autre, etc. Donc ça c'est un peu ce que j'appelle une thèse outil, et c'est un peu mon ambition, c'est de proposer une thèse outil sur les offrandes miniatures, c'est-à-dire qu'à l'avenir, si des gens trouvent en fouille des vases miniatures, ils pourront regarder ma thèse, et se dire, tiens, il l'a décrite, et donc je sais qu'elle a été trouvée à tel endroit et qu'on a daté de telle époque.
Mais tu proposes aussi une réflexion, en fait, on en parlera en détail, mais je trouve que, en fait, ta thèse est finalement un mélange des deux types de thèses, parce que tu fais une typologie, mais en même temps, tu pousses une réflexion sur la miniaturisation, en général, des objets, des offrandes.
Oui, voilà, la miniaturisation, c'est vrai que c'est un phénomène qui est absolument pas seulement italien, et pas seulement de l'Italie pré-romaine. La miniaturisation, c'est un phénomène presque universel, en tout cas, la Méditerranée antique, tout le monde miniaturise, à toutes les époques, en Gaule, en Égypte, en Grèce. Donc, c'est vrai que dans un certain sens, j'envisage ma thèse comme un cas d'étude de la miniaturisation dans l'Italie pré-romaine, qui peut servir à un discours, à un débat sur ce phénomène en général. Mais j'aimerais aussi vraiment que ce soit quelque chose d'utile pour d'autres chercheurs sur l'Italie pré-romaine, justement.
Bien, on va en revenir en détail pendant l'épisode. Déjà important, nous allons poser un petit peu le contexte de l'époque sur laquelle tu travailles. Donc, tu travailles sur l'Italie pré-romaine. Alors, on est sur quelle époque ? On est sur quel contexte ? Il se passe quoi ? Et on est où ?
Alors, nous sommes en Italie, donc la péninsule italienne, et nous sommes, alors pré-romain, c'est un terme qui peut prêter à confusion, parce que, il est très clair, c'est avant Rome. Alors en réalité, Rome, d'après la légende, d'après la tradition littéraire, a été fondée en 753 avant Jésus-Christ. Mais l'Italie pré-romaine, ce n'est pas l'Italie d'avant 753 avant Jésus-Christ. L'Italie pré-romaine, déjà, c'est l'Italie d'avant la conquête romaine.
La conquête romaine, dans quel sens ?
Bah, Rome, avant de conquérir la Grèce, l'Égypte, la Gaule et tout le reste du pourtour méditerranéen, a commencé par conquérir l'Italie.
Oui, d'accord.
Et donc, l'Italie, avant d'être conquise par les Romains, on parle de l'Italie pré-romaine.
Donc ça veut dire que c'est une Italie qui est un peu plus morcelée, qui n'est pas unifiée comme elle a pu l'être par la conquête romaine.
Exactement. Donc l'Italie pré-romaine, c'est une mosaïque de peuples et de langues qui existe en réalité à côté de Rome.
Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on voit qu'au Moyen-Âge, bien plus tard, mais l'Italie est revenue à ce morcellement. Il y a une histoire très compliquée avec plein de petits sous-ensembles. Donc l'écho est intéressant, je trouve.
Oui, l'Italie, dans les années 1870, a en fait retrouvé une unité qu'elle n'avait connue qu'à l'époque antique.
Donc toi, tu étudies avant cette conquête et tu étudies toute l'Italie ou est-ce que c'est un espace en particulier ?
Moi, je travaille sur le monde italique, c'est-à-dire les gens qui parlent des langues qu'on dit italiques. Donc les langues italiques, c'est une famille de langues qui inclut le latin. En fait, de la même manière que le français, l'italien, l'espagnol et le roumain sont des langues romanes, c'est-à-dire qu'elles descendent du latin, le latin et d'autres langues comme l'osque par exemple, sont des langues italiques qui descendent d'une langue mère qu'on appelle le proto-italique. Donc les gens qui vivent en Italie à l'époque antique sont des italiques, et non pas des italiens, Ce sont des italiques parce qu'ils parlent des langues italiques. Donc le latin et l'os, qui est un peu la plus importante, c'est la langue parlée dans toute l'Italie de l'Apennin, en fait.
C'est comme on dirait les Gaulois, en fait, j'ai l'impression. Parce que les Gaulois, ça regroupe plusieurs peuples de différents... Mais on est sur vaguement la Gaule.
Oui, on est sur différents peuples qui parlent des langues différentes mais apparentées, qui ont des formes d'organisation politique différentes mais apparentées. Voilà, on est sur ce genre de schéma-là, effectivement.
Et rappelle-nous alors le contexte historique à l'époque. On a tous ces peuples fragmentés, mais comment ça se passe ?
Alors, le fait historique majeur de cette Italie pré-romaine, disons du 8e au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est bien sûr la conquête de Rome et l'expansion de Rome en Italie.
C'est à partir de quand, ça ?
L'expansion romaine, elle commence presque dès la naissance de Rome. Bien sûr, les premiers siècles de Rome sont très mal connus parce que les sources littéraires, on les considère comme légendaires et donc comme peu fiables avant l'époque de la République, c'est-à-dire avant 509 avant Jésus-Christ. Mais vraisemblablement, Rome contrôle déjà sa région, le Latium, dès la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, contrôle l'Étrurie, ou en tout cas une bonne partie de l'Étrurie, dès les deux siècles suivants. Et dès 241 avant Jésus-Christ, Rome contrôle toute l'Italie, y compris Sicile, Sardaigne et Corse.
D'accord, mais tu vois, je crois que j'avais jamais compris cette progression, donc merci. Bon, on se rend compte un petit peu de ça. Alors, rentrons dans le sujet de l'épisode, les offrandes. Alors, déjà de façon très simple, quel est le rôle des offrandes dans cette société donc de l'Italie pré-romaine ?
Alors, le rôle des offrandes, il est vraiment central pour, je pense, deux raisons. Une raison religieuse et une raison, on pourrait dire, politique. La raison religieuse, c'est que l'offrande, si on l'entend dans un sens très large, c'est-à-dire et l'offrande votive et le sacrifice sanglant et la libation, c'est la façon principale de communiquer avec la divinité dans la religion gréco-romaine. C'est-à-dire que les religions gréco-romaines, le polythéisme gréco-romain, il diffère beaucoup plus des religions contemporaines du livre, le judaïsme, le christianisme, l'islam, que ce qu'on a souvent tendance à croire. Ce n'est pas juste qu'au lieu d'avoir un dieu, il y en a plusieurs, mais il y a une différence fondamentale dans la façon dont on communique avec justement la divinité.
La liturgie est différente même.
La liturgie est différente, on pourrait même dire « il n'y a pas de liturgie ».
Ah !
Mais, par exemple, il n'y a pas cette relation intime et personnelle avec la divinité, le fait de prier seul dans sa chambre le soir. La notion de foi, elle n'existe pas vraiment. Le mot qui a donné foi en français, fides en latin, il veut surtout dire, à l'époque classique, la confiance ou le crédit qu'on apporte à quelqu'un, un autre être humain. John Scheid, qui est un des grands historiens de la religion romaine et qui est professeur au Collège de France maintenant, a écrit un livre dont le titre est assez emblématique, c'est « Qu'en faire, c'est croire ». Donc la religion romaine, l'acte religieux, la vénération du dieu, elle passe par l'accomplissement de rites.
Par des choses concrètes.
Par des choses concrètes, que sont des offrandes, que ce soit des offrandes votives ou le fait d'accomplir un sacrifice, qui peut être un sacrifice sanglant d'animal, ou une libation, c'est-à-dire un sacrifice de liquide, de vin ou d'encens. Donc déjà l'offrande, elle est très importante, parce que l'offrande, c'est la forme principale du lien avec la divinité. Ensuite, elle est importante d'un point de vue politique, parce que les grands personnages de la cité peuvent offrir à la divinité, et aussi, du même coup, à la communauté, des choses, des temples, des hôtels, etc.
Donc on voit que les offrandes ont un rôle social, en plus d'un rôle religieux aussi.
Oui, la religion est vraiment imbriquée dans la structure de la cité antique. C'est la participation aux cérémonies qui fait de l'Italien antique un citoyen de sa cité.
Et à qui est-ce qu'on fait des offrandes ? Qui sont un peu les dieux ? Alors bien sûr, tu peux pas résumer tout un panthéon de dieux, il y en a beaucoup, mais déjà, quels sont les principaux dieux que tu retrouves dans tes recherches ?
Alors, c'est assez compliqué à dire. Déjà, c'est vrai qu'une autre de ces idées reçues sur la religion polythéisme gréco-romain, c'est l'idée qu'il y aurait un panthéon qui serait comme un organigramme d'entreprise.
Oui.
On a un peu cette idée que, voilà, on a le dieu qui est le roi des dieux, on a le dieu qui s'occupe de la terre, on a le dieu qui s'occupe de la mer, on a la déesse qui s'occupe de l'amour.
Donc
on a
le RH, les finances et tout ça.
Voilà, c'est ça. C'est pas complètement faux, mais c'est aussi pas du tout vrai.
Ok.
Les dieux ont des périmètres d'action préférentiels. Personne va aller dire que Aphrodite n'est pas la déesse de l'amour. Elle l'est. Mais c'est des champs d'action qui sont très flous, très nébuleux. Et tous ces dieux sont très protéiformes. C'est-à-dire que, en fait, on retrouve toujours tous les dieux dans des contextes où on ne s'y attendrait pas.
Bon, on l'a vu effectivement quand on a parlé d'Apollon. Qu'on a certaines images où Apollon est censé être ça ou ça, mais en fait, quand on regarde en détail, il peut être beaucoup plus négatif et beaucoup plus sombre qu'on le pense. Donc là, c'est ça que tu
voilà.
veux dire.
C'est ça. Toutes les personnalités divines sont très différentes dans différents lieux. Ça va être différents aspects qui vont sortir. Et il y a aussi beaucoup plus de dieux que les divinités classiques. D'abord parce que tous ces dieux se déclinent en différentes versions locales. Par exemple, voilà, on a Zeus olympien, c'est pas le même que le Zeus ailleurs. C'est connu en Gaule, par exemple, parce qu'en Gaule, ils reçoivent des épithètes locaux, c'est-à-dire que...
Des quoi des noms locaux, tu veux dire?
Oui, des noms, des adjectifs locaux. Par exemple, l'Apollon qui est vénéré à Alésia, il s'appelle Apollon Moritasgus. Et c'est pas le même que d'autres Apollons qui sont vénérés ailleurs. Bon. Donc déjà, tous les dieux ont un peu différentes versions de leur personnalité, et aussi, il y a des esprits des lieux dans tous les lieux. Des nymphes habitent les fontaines, les rivières, les grottes. Tout est habité par un esprit un peu surhumain dans l'Antiquité. Donc ça peut être difficile de savoir à qui on offre, surtout que dans mes sanctuaires, en tout cas, généralement, on n'a pas d'épigraphie qui prouve.
Donc pas de texte écrit dans la pierre qui nous donne des indices sur le dieu en question.
C'est ça, on n'a pas d'inscription qui dit « Bienvenue en sanctuaire de Héra ». Et donc, il faut qu'on essaie de deviner un peu, à partir de ce qu'il y a dans le sanctuaire, à quelle divinité ou à quel type de divinité c'est. Et donc, souvent, on se retrouve à, justement parce que les dieux n'ont pas des champs d'action exclusifs, on se retrouve souvent à dire « ça, ça doit être en sanctuaire d'une déesse de la fertilité », sans qu'on puisse dire laquelle c'est, parce qu'on n'a pas d'inscription. Donc, moi, j'étudie tous les dieux. On offre à tous les dieux. Une chose qu'on remarque, c'est que les offrandes miniatures, les vases miniatures en particulier, sont plus souvent dans des sanctuaires de divinités féminines, mais pas exclusivement.
D'accord. Alors, aussi, revenons aux offrandes aussi en général. Quel type d'offrande est-ce qu'on retrouve dans ces sanctuaires, dans les lieux que tu as étudiés?
Alors, même si on restreint au sens d'offrande votive, on a des offrandes de toutes sortes. Alors, une offrande votive, c'est quoi? Une offrande votive, c'est quelque chose qui, d'après sa définition au sens strict, est relatif à un vœu. Donc, on a fait un vœu à une divinité. On a dit, par exemple, si tu guéris mon pied arthritique, je vais te faire un don. L'offrande votive, c'est le paiement de ce vœu qu'on fait à la divinité. Il y a une phrase latine qui explique ça, c'est « do ut des »,« je donne afin que tu donnes ». Et donc, on est vraiment dans une relation contractuelle avec la divinité. Et ça aussi, c'est une grande différence avec les religions modernes, parce qu'aujourd'hui, on n'imagine pas être dans une relation contractuelle avec le dieu du christianisme, le dieu de l'islam, le dieu du judaïsme. C'est une relation contractuelle avec les dieux antiques. Et du coup, sur les offrandes votives, on a souvent une inscription qui explicite cette fonction. En latin, par exemple, on marque souvent « VSLM ». Sur les offrandes votives pour votum soluit libens merito.
À tes souhaits.
Ce qui veut dire il a accompli son vœu de bon gré comme il se doit. Et chez les peuples italiques oscophones, on écrit plutôt bateis datas, ce qui veut dire pour grâce reçue ou grâce donnée. Bon, donc une offrande votive, c'est ça. Mais des offrandes votives, il y en a de toutes sortes. Les plus riches peuvent élever des temples ou des autels.
Ah oui, donc là, vraiment, c'est, voilà. C'est monumental.
Comme remerciement à la divinité, on peut offrir des statues. La chimère d'Arezzo, qui est une célèbre statue étrusque, est en fait une offrande votive à un dieu étrusque. Et puis, en descendant l'échelle économique et sociale, on peut offrir des bijoux, des vases en métal, des vases en céramique, des armes, des petits vases, des monnaies. C'est vraiment extrêmement divers. Et alors, je rajouterais qu'on distingue souvent entre deux types d'offrandes. L'offrande par destination, qui est un objet spécifiquement fait pour être une offrande, on l'a fabriqué pour cela, et l'offrande par transformation, un objet qui a servi à autre chose et qu'on utilise comme offrande.
On se dit, bon, finalement, allez, hop, ce vase, hop, il va passer en offrande.
Voilà, exactement.
Alors que la veille, on s'en servait pour mettre des fleurs ou je sais pas quoi.
Tout à fait.
D'accord.
Ça, c'est offrande destination, offrande par transformation.
Et est-ce que les offrandes sont faites que dans des sanctuaires ou que dans des temples, dans des lieux dédiés, ou est-ce qu'on peut aussi avoir des endroits chez soi où on fait des offrandes? Alors, tu l'as dit tout à l'heure que c'était pas vraiment une religion de chez soi, mais je te demande quand même.
C'est aussi une religion de chez soi.
Ah, d'accord.
On a aussi, bien sûr, le culte domestique qui existe, qui est important, et où on offre donc au dieu de la maisonnée des petites libations.
Des libations, c'est quoi déjà?
Alors, une libation, c'est un sacrifice de liquide. C'est du vin ou de l'huile.
Le sacrifice du liquide, ça me fait toujours rire comme formulation. C'est « Ah, je mets un couteau dans cette eau ». Oui, bon, voilà, bref, pardon, excuse-moi, c'est mon esprit qui dérive un petit peu, je t'en prie.
Donc, on peut faire des libations à ma maison, dans un hôtel prévu à cet effet. Souvent, on en connaît. À Pompéi, on connaît ça, ça s'appelle les larères. Généralement, en dehors du monde romain, on parlera d'hôtels domestiques pour éviter d'avoir à plaquer cette conception, cette idée de l'art, qui sont des dieux en particulier. Mais donc oui, on offre chez soi aussi. On offre chez soi, on offre dans des sanctuaires, et puis on offre dans plein de types de sanctuaires différents, des grands sanctuaires urbains très importants, comme des petits hôtels au croisement de rue ou au coin de la rue. On offre un peu partout.
Et tu l'as dit, c'est toutes les couches de la population qui font des offrandes ?
Oui, tout le monde à son échelle.
Oui.
C'est aussi une manière de marquer son statut social.
Oui, parce que j'imagine que si les plus nobles donnent juste un petit peu d'eau comme offrande, bah, ça le fait pas trop, quoi.
Voilà, il est quand même attendu des personnes les plus aisées de la cité qu'elles participent à la vie de la cité aussi en, par exemple, rénovant ou construisant des lieux de culte. C'est important. Donc chacun à son échelle donne à la divinité.
Et est-ce qu'on faisait des offrandes seulement aux divinités ou est-ce qu'on pouvait aussi en faire, je sais pas, à ses amis, à des nobles de la cité ?
Alors, on peut toujours faire des cadeaux à ses amis.
Ah.
Mais non, on parlera pas d'offrandes. On ne fait pas d'offrandes à des humains vivants. On peut faire des offrandes à des humains morts. On peut considérer que les mobiliers archéologiques qui se trouvent dans les tombes est une offrande. Je dirais que ce n'est pas une dénomination qui fait parfaitement l'unanimité, mais c'est quelque chose qu'on peut lire, de parler d'offrande funéraire pour les objets qui sont dans la tombe.
Donc qui accompagnent le mort dans la tombe. Ouais.
Qui accompagnent le mort dans la tombe. Et on peut aussi faire des offrandes à des ancêtres. Par exemple, on pense que très probablement les dieux Man, qui sont les dieux de la mort romains, sont en fait l'agglomération de tous les esprits, de tous les défunts. Et on leur offre des choses aux dieux Man, et on peut offrir à parfois les héros. Il y a des petits lieux de culte qui s'appellent des héroon, qui sont faits pour des héros locaux. Par exemple, il y a un héroon à Aenée, qui est l'ancêtre mythique de Romulus et Rémus, à Lavinium, où on offre des choses dans ce qui est censé être sa tombe. Donc on peut offrir des choses à des gens morts, mais pas à des gens en vie.
Si je vous dis la religion romaine, à quoi pensez-vous ? Sans doute à Jupiter qui commande la foudre, ou à tous les grands dieux qui nous regardent du haut du Capitole. Mais ce n'est pas depuis le ciel que nous parlent les divinités du polythéisme. Ils sont là, avec nous, dans la cité et même dans nos foyers, faisant de la religion des Romains un ensemble de cultes civiques et domestiques.
Et est-ce qu'il y a des moments pour faire les offrandes, des moments particuliers de la vie de la cité ou même de la vie en général, ou est-ce qu'en fait c'est plutôt quotidien ?
Les deux. Il y a des sacrifices du quotidien. On sacrifie au quotidien, effectivement. L'autel domestique, ça peut être tous les jours. Et il y a aussi un calendrier qui rythme une vie religieuse dans l'année. Et il y a des sacrifices qui doivent être faits à des moments précis et qui sont effectivement fixés par ce calendrier. Donc dans l'année, on sait que à telle date, ce sont les parentalia, et donc on va aller faire des sacrifices sur les tombes de ses ancêtres. À telle autre date, ce sont la fête de tel dieu, donc on va aller faire des sacrifices dans le sanctuaire de tel dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fait pas à d'autres moments. Mais ce jour-là, c'est important qu'on aille faire telle chose. Et évidemment, il y a aussi des actes d'offrande et de sacrifice qui accompagnent des moments importants de la vie, comme par exemple le mariage, et est un moment très important, qui est lié à plusieurs rituels religieux.
Tu as dit tout à l'heure aussi, donc tu as vu, et on va y revenir sur les offrandes miniatures, tu as vu qu'on retrouve les offrandes miniatures dans des divinités liées à la fertilité. Est-ce que tu as vu d'autres différences d'offrandes selon les dieux ou peut-être selon les régions en Italie ?
Oui, bien sûr, il y a des vraies différences dans les pratiques, dans les objets qu'on offre entre les différentes régions, entre ces différents peuples qui parlent tous des langues donc apparentées. Un exemple qu'on peut dire, c'est dans le Latium, c'est développé au début de la République, c'est-à-dire au 4e siècle avant Jésus-Christ, une pratique d'ex-voto anatomique. C'est-à-dire que, alors un ex-voto, c'est un synonyme de offrande votive. Ex-voto, ça veut dire pour accomplir le vœu.
On voit encore ça aujourd'hui quand on voit dans des bateaux, dans des églises.
Ouais. On appelle ça des ex-voto. C'est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc les ex-voto anatomiques, ce sont des offrandes votives en forme de bouts du corps humain.
J'ai eu très peur quand tu m'as dit ça au début. Je me pensais qu'on mettait des vrais bouts de corps humain. C'est juste des choses en forme de...
Oui, en terre cuite.
Ah, ouf.
Presque toujours en terre cuite. Et quand c'est pas en terre cuite, c'est en métal. C'est jamais en humain. Donc c'est des offrandes en forme d'yeux, de nez, de bouche, de main... de parties génitales, de pieds, de jambes.
Mais non.
Il y a tout un tas de formes différentes qui existent. On pense que c'est lié à des vœux de guérison. Donc, j'ai mal aux yeux ou je suis myope, guéris-moi. Si on guérit, on donne l'offrande. Probablement pas que des vœux de guérison, par exemple, le nombre d'utérus qu'on trouve. C'est probablement aussi des demandes de fécondité, de fertilité.
T'as des photos d'offrandes en forme d'utérus ?
Oui.
Ah, mais on en mettra sur le site parce que je me demande, enfin, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble parce que...
Ça ne ressemble pas à un utérus humain.
Ah, justement, ça m'intéresse encore plus.
Ça ne ressemble pas à un utérus humain. En fait, ça ressemble pas à grand chose. Enfin, ça ressemble un peu à... C'est un peu difficile à expliquer.
Parce que la connaissance anatomique a évolué, forcément.
Oui, en fait, les utérus anatomiques, enfin, les ex-voto anatomiques en forme d'utérus ressemblent plus à des utérus de vaches et de moutons. Parce que c'est cela que les antiques connaissaient. Parce qu'ils avaient une pratique de l'intérieur des corps des animaux. Comme on sacrifiait des animaux, on tuait des animaux. Donc en fait, ils connaissaient mieux l'intérieur des corps des animaux que l'intérieur du corps humain.
Donc tu nous apprends qu'un utérus de vache ne ressemble pas à un utérus de femme.
Effectivement, un utérus de vache ne ressemble pas à un utérus de femme.
On en apprend des choses dans ce podcast. Mais alors, comment tu reconnais que ce sont des utérus ?
Parce que les ex-votos anatomiques d'utérus se ressemblent entre eux, qui font partie de cette série d'ex-votos anatomiques, donc ça doit bien être un organe. Et à vrai dire, je pense qu'au départ, c'est une élimination. On a éliminé les autres possibilités.
En gros, quand on ne sait pas ce que c'est, on se dit « Oh, c'est probablement un utérus quand ça a une forme un peu chelou ou... ?»
Si je ne me trompe pas,
d'accord, parfait.
Mais on rentre dans des détails du coup un peu sordides, je crois qu'il y en a qui ont des sexes au bout.
Ah, donc des sexes féminins.
Oui.
Ok, donc là, il y a encore une représentation du sexe féminin dans cette façon, c'est hyper intéressant.
Voilà. Mais il y a toutes les parties du corps sont représentées, quoique les sexes féminins ne sont absolument pas majoritaires, il y a beaucoup plus d'utérus et de seins. Il y a des verges, mais il n'y a pas beaucoup de vulves.
D'accord, mais donc c'est intéressant de voir aussi comment on retrouve de la représentation du corps dans des, voilà. dans des offrandes. Alors, un peu, c'est surprenant, c'est sûr.
Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui est apparu à Rome, qui se répand avec la romanisation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que Rome va conquérir des territoires, les territoires conquis vont se rapprocher culturellement et religieusement de la culture romaine, et donc, en fait, la présence de ces ex-votos anatomiques peut servir de fossile directeur pour la romanisation. On sait que plus la culture romaine est influente dans la région, plus on risque de trouver ces ex-votos anatomiques.
Et Rome a lancé la mode des utérus, moi c'est tout ce que je retiens. Alors j'imagine que ça c'est plus compliqué parce que ça laisse pas beaucoup de traces archéologiques, mais est-ce qu'on retrouve aussi des offrandes de nourriture ?
Oui, on en retrouve. On peut en retrouver les traces archéologiques. D'une part, quand c'est des offrandes de nourriture carnée, de viande, souvent on retrouve des ossements sur lesquels il peut y avoir des traces de boucherie. Parce que les archéozoologues sont capables de regarder des os et de savoir s'ils ont été découpés et comment ils ont été découpés. Si c'est une offrande végétale, on peut trouver des graines, on peut trouver des charbons. Les deux sont étudiés par des spécialistes particuliers, les anthracologues et les carpologues. Et on peut trouver aussi des résidus sur l'intérieur des vases. Les vases peuvent être analysés pour savoir si dedans il y avait du vin, quel type de vin, si dedans il y avait de l'huile, quel type d'huile. Donc oui, il y a des offrandes de nourriture et on est capable de savoir ce que c'est.
C'est super intéressant. Alors, on va arriver un peu plus au sujet que tu étudies, donc les offrandes miniatures. Quelles sont les particularités de ces offrandes et pourquoi est-ce qu'elles sont miniaturisées ?
Donc mes offrandes que j'étudie, elles sont miniatures. C'est-à-dire qu'elles sont toutes petites. Quand je dis qu'elles sont toutes petites, c'est que toutes d'entre elles sont petites, pas qu'elles sont toutes petites.
Mais ça veut dire qu'on a une différence entre, par exemple... un vase, et on voit vraiment que les vases miniatures, on voit vraiment que c'est le même vase, mais qui est plus petit.
Exactement. La miniaturisation, fondamentalement, c'est ça. C'est de rendre plus petit quelque chose qui existe dans un format plus grand. Mais une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que, en fait, cette définition, elle pose plein de problèmes, et que c'est un concept beaucoup plus difficile à définir, beaucoup plus évanescent que ce qui nous paraissait en premier lieu. Souvent, parce qu'il faut quand même se poser la question, si on définit une catégorie de miniature, il faut aussi dire en quoi elle est différente de petit. Qu'est-ce qu'un petit vase ? Qu'est-ce qu'un vase miniature ?
Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça.
Ouais. Donc souvent, la définition utilisée, c'est la réduction en taille d'un objet modèle au point que l'objet perde sa fonctionnalité première. Donc si on prend l'exemple d'un couteau, d'une épée, on peut prendre une épée en bataille, on peut tuer des gens avec. Si cette épée, le format de base fait 1 mètre. Si on fait une épée de 50 cm, on peut peut-être encore tuer des gens avec. Si on fait une épée de 20, de 10, peut-être, bon, voilà. Par contre, si on commence à faire une épée de 5 cm, là, on tue plus grand monde. Donc on va dire, ok, ce n'est plus une petite épée, c'est une épée miniature. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas le cas de tous les vases qu'on dit miniatures. C'est-à-dire que si on prend le terme de la manière dont il a été utilisé par le passé par les chercheurs, il y a plein de vases qu'on dit miniatures qui peuvent encore avoir leur fonction première, c'est-à-dire de contenir des choses.
Oui.
Et d'ailleurs, il y a toutes les raisons de croire que ces vases dits miniatures gardaient leur fonction malgré la réduction de taille. Donc, les objets que j'étudie, ils sont petits et ils appartiennent à des catégories dont les chercheurs ont par le passé dit ce sont des choses miniatures. Une des choses que je questionne, c'est est-ce que cette catégorie même a un sens ?
Donc là, tu remets en cause toute ta thèse en disant est-ce que ça a un sens de parler de miniatures et pas juste de petits objets ?
Oui.
Waouh !
En tout cas, pour beaucoup des objets que j'étudie, disons que ce que je apporte au débat sur la miniaturisation en général, c'est que peut-être que dans certains cas, ce n'est pas la peine d'utiliser ce concept.
Et à part les vases, qu'est-ce qu'on a comme offrande qu'on qualifie ? Bon, gardons pour l'instant le terme de miniature avant de l'envoyer totalement. Qu'est-ce qu'on qualifie de miniature comme offrande ?
dans mon corpus, dans l'Italie pré-romaine, les vases prédominent très largement. Il y a énormément de vases miniatures. Il y a d'autres choses, il y a des armes, des armures et des outils miniatures. Donc des lances, des haches, des épées, des cuirasses, des boucliers, des faucilles, aussi des bâtiments, des maquettes de bâtiments existent, miniatures.
On n'a pas des utérus miniatures du coup ?
Tous les exoto-anatomiques ne sont pas à taille humaine, mais je ne les étudie pas dans ma thèse, car justement pour cette raison-là, j'ai évacué la question de la figure humaine. Je n'étudie pas la figure humaine, y compris des fragments de la figure humaine, simplement parce que, déjà parce que ça ferait beaucoup, et aussi parce que je pense que la question de l'échelle des statues et des statuettes, elle est un peu différente. C'est-à-dire, autant c'est étonnant d'avoir une épée qui fait 5 cm de long, autant c'est pas si étonnant que ça d'avoir des statuettes de toute taille, de taille réelle et de taille non réelle. Donc voilà, je ne parle pas de la figure humaine. Mais oui, il existe des utérus tout petits.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on fait ces offrandes miniatures ? Alors moi, j'ai aussi une idée, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'on peut faire aussi un lien ? Par exemple, ce serait des enfants qui feraient ces offrandes ou pas du tout ?
Les enfants sont une possibilité, une hypothèse qui a été émise dans la littérature scientifique. Une autre qui a longtemps été très populaire était que les vases miniatures ou les offrandes miniatures en général étaient des offrandes faites par des gens pauvres qui, n'ayant pas les moyens de se payer une offrande d'aide normale, offraient quelque chose de plus petit.
Donc ça veut dire que les créateurs d'offrandes, en mode Startup Nation, en mode ok, on veut quand même faire des offrandes pour que même les pauvres en achètent, donc on va faire des toutes petites, comme ça, ils peuvent en acheter aussi.
C'est une hypothèse à laquelle je ne souscris pas forcément.
Ah. Mais quelle est ton hypothèse à toi ?
Pourquoi est-ce que je ne pense pas que dans la majorité des cas, ce sont des choses pour les enfants ? Le problème d'étudier les offrandes dans les sanctuaires par rapport à étudier le mobilier funéraire, c'est que dans une tombe, on a un corps. Et qu'un corps, ça s'analyse. Et que donc, par exemple, quand il est question de l'âge ou du sexe biologique d'un individu trouvé dans une tombe, on est capable de le connaître avec plus ou moins de précision. Pour l'âge avant 25 ans, ça marche bien. Pour le sexe biologique, avec un faisceau de probabilité, ça marche quand même plutôt bien aussi. Et donc, on est capable, si on prend toute une nécropole, on prend 100 tombes, on regarde ce qu'il y a comme mobilier, et on est capable de dire, ça c'est du mobilier plutôt féminin, ça c'est du mobilier plutôt masculin, ça c'est du mobilier pour les jeunes, ça c'est du mobilier pour les adultes. Le problème dans les sanctuaires, c'est qu'on n'a pas les corps des gens qui ont fait les offrandes à côté.
Ça serait super bizarre quand même, mais oui, d'accord.
Et donc, c'est beaucoup plus difficile de savoir qui a offert quelle chose dans un sanctuaire. On est obligé de faire des suppositions. Donc, les archéologues écrivent, et ont trop souvent écrit de manière abusive, on a trouvé des bijoux, donc c'est les femmes qui offraient ici. Ou on a trouvé des armes, donc c'est les hommes qui offraient ici. Voilà, sans qu'on puisse en fait en apporter la preuve physique, on peut pas le savoir. Donc, dans les tombes d'enfants, on a trouvé des objets miniatures. Notamment, dans les tombes d'enfants lucaniennes, on trouve, pour les garçons, des armes et des armures miniatures. C'est assez mignon. On trouve des vases miniatures aussi, dans des tombes d'enfants. Mais, ce ne sont pas les mêmes types de vases. Les vases dans les tombes sont souvent peints. Les vases dans les sanctuaires ne sont pas souvent peints. Ce ne sont pas les mêmes formes d'armes miniatures non plus. Et on connaît la forme des jouets dans le monde antique. Et ce ne sont pas des jouets qu'on trouve non plus dans les sanctuaires. Donc, ce ne sont pas des offrandes d'enfants, ou en tout cas, ce ne sont pas des offrandes exclusivement par et pour des enfants.
Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ces offrandes miniatures ? Quel serait leur sens ?
C'est un peu toute la question de ma thèse.
Oui, tu vois, j'utilise le conditionnel. Tu vois, justement, tu peux pas me répondre toute ta thèse, mais déjà, quelles sont tes hypothèses ?
Alors, déjà, une des idées principales que j'ai, c'est que ces vases miniatures ne sont pas des offrandes votives. Ce sont des objets utilisés pendant le culte. C'est-à-dire qu'ils sont petits parce qu'ils contenaient une petite quantité d'offrandes. Et que donc, la question qu'il faut poser, c'est pas vraiment pourquoi les vases sont si petits, mais pourquoi est-ce qu'on offre une petite quantité de choses ? Alors certes, ça peut devenir un raisonnement circulaire, parce qu'en fait, on peut proposer exactement les mêmes réponses. On offre peu de choses parce qu'on est pauvre, on offre peu de choses parce qu'on est un enfant, voilà. Mais il y a d'autres hypothèses possibles, mais les textes antiques peuvent nous donner quelques indices sur pourquoi on offrait des petites quantités de choses, avec une chose qui s'appelle l'offrande des prémices, qui est une offrande attestée dans les textes d'une petite quantité au début d'une chose. Par exemple, on offre les prémices quand on fait les vendanges. La première grappe de raisin est offerte aux dieux. Donc voilà, l'offrande d'une petite quantité de choses est attestée par les textes et commence à être expliqué par les textes. Ensuite, on a les autres miniatures qui sont donc celles qui effectivement n'ont pas la même fonctionnalité quand elles sont petites et quand elles sont grandes. Par exemple, on avait pris l'exemple des armes. Là, je me demande s'il n'y a pas un rapport avec la défonctionnalisation.
C'est-à-dire ?
Quand on offre des armes, notamment, et des armures dans les sanctuaires, on les défonctionnalise, c'est-à-dire qu'on les rend inutilisables. Souvent, quand on offre des épées, on va les plier en deux. Pareil pour des pointes de lance, on les plie. Les casques et les armures peuvent être écrasés, ils peuvent être troués. Donc quand on offre à divinité, on soustrait au monde des mortels et donc on détruit l'objet. Est-ce que le fait de fabriquer une arme si petite qu'elle ne peut pas être utilisée ne peut pas être en fait une autre manière de défonctionnaliser ? Est-ce que c'est pas une défonctionnalisation d'une offrande, justement, par destination ?
Et de faire toujours fonctionner l'artisanat local, peut-être ?
Et de faire toujours fonctionner l'artisanat local parce qu'il y a très probablement dans les sanctuaires des ateliers qui servent à fabriquer des offrandes votives. Ça, on le sait. On sait qu'il y a une activité économique dans les sanctuaires et que dans les sanctuaires, il y a des boutiques où les fidèles peuvent acheter les offrandes qu'ils vont aller donner à la divinité.
Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Bon, forcément, vu que c'est toi qui fais la thèse et pas moi. Mais c'est super, super intéressant. Alors, parlons un petit peu justement des sources que tu étudies. Alors, en fait, toi, tu travailles à partir de comptes rendus de fouilles archéologiques, c'est ça ?
Exactement. J'ai dit tout à l'heure que ce que je voulais, c'était toucher du matériel, toucher du mobilier archéologique. Le problème est que j'ai commencé à faire ma thèse et qu'il y a une pandémie mondiale qui s'est abattue sur la planète.
Ah oui, pareil, un certain truc ouais, voilà. qui nous a un peu bloqué. Ouais.
6 à 8 mois plus tard, et donc j'étais complètement bloqué, je n'ai pas pu aller en Italie, les musées italiens ont tardé à rouvrir, bref, je n'ai pas vu de mobilier pour ma thèse, et donc je fais une thèse effectivement bibliographique. Donc je travaille sur effectivement des comptes rendus publiés de fouilles archéologiques.
Et le publier a son importance, j'imagine.
Le publier a son importance parce que quand on fait une fouille, normalement on fait un compte rendu. C'est la base de la déontologie. Une fouille qui n'est pas documentée, c'est un pillage, c'est une destruction. C'est quelque chose qu'il faut retenir dès son premier jour sur un chantier archéologique et qui fait très peur au début. C'est que quand on fouille, on détruit l'information qu'on est en train de recueillir. Et donc, si on fouille sans documenter, on a détruit. Et cette information est perdue à jamais. Donc c'est très important de documenter ces fouilles archéologiques. C'est très important de documenter, par exemple, si on trouve un artefact archéologique à la campagne en France, c'est important de le signaler au service régional de l'archéologie, parce que sinon, c'est des informations perdues. Donc, toutes les fouilles font en théorie l'objet d'un compte rendu, d'un rapport de fouille. Tous les rapports de fouille ne sont pas publiés. Je travaille sur ce qui a été publié. Et évidemment, la qualité de ces publications est très diverse. Il y a des choses qui sont très bien publiées, avec des photos, des dessins de tous les vases. Il y a des choses qui sont très mal publiées, avec ni photos, ni dessins. Donc, voilà, pour chaque site, je fais avec ce que j'ai. Et j'essaie de tirer le plus de choses possible de la documentation qu'il y a. Des fois, en fait, on peut tirer énormément de choses de la documentation brute qui est fournie. Des fois, on peut tirer très peu de choses de la documentation brute qui est fournie.
Et tu travailles sur combien de sites environ ?
Actuellement, dans mon catalogue, il y a 113 sites.
113 ?
C'est
énorme !
Là encore, il y en a où c'est une page pour dire « on sait qu'on a trouvé des vases miniatures là, on sait pas quelle forme ils ont, on sait pas combien il y en avait », à un rapport, enfin, ma version du rapport fait 25 pages, où là, on sait exactement dans quelle pièce de la maison on a trouvé quoi, quels étaient les assemblages, quels étaient les groupes, la stratigraphie, toutes les différentes couches, voilà. Donc ça va vraiment du plus petit morceau d'information qui compte quand même comme un site à des sites très grands.
Et tu travailles aussi sur des sources donc textuelles aussi, on l'a vu ?
Oui, je travaille sur des sources textuelles qui me servent à interpréter et à contextualiser les sources archéologiques, sachant que les sources littéraires ne parlent pas de l'offrande des miniatures.
Comment ça ?
L'offrande d'objets miniatures n'est pas décrite par les textes.
On parle juste d'offrande en général, mais on ne précise pas quand c'est miniature.
Voilà. Déjà, le terme miniature, il vient du latin, mais il ne vient pas du latin classique. Le terme miniature, il vient du latin médiéval. Il vient du minium, qui est le pigment utilisé pour faire des miniatures sur les parchemins.
Ah.
Et donc, en fait, le sens premier de miniature, c'est des miniatures du parchemin. Et c'est par extension de ces tout petits dessins. C'est parce qu'on faisait...
On revient toujours au Moyen-Âge.
Voilà. On faisait des petits dessins avec du minium, donc ces petits dessins ont pris le nom de miniature, et parce qu'ils étaient petits, on a tiré le nom miniature pour décrire quelque chose qui était petit. Donc en fait, déjà, le mot miniature n'est pas directement étymologiquement lié avec le préfixe mini.
Mais tu as dit pourtant que toi, tu arrives à retrouver des formes de petites offrandes, mais c'est là, j'imagine, où tu te poses la question entre voilà. Miniature et petite.
Bah, on a cette offrande des prémices, déjà, dont on discute dans les sources. Après, on a des suffixes qui veulent dire petit. Par exemple, on a une amphore, on peut avoir un amphorisque. On a une hydrie, qui est un vase qui sert à contenir l'eau. On peut avoir des hydrisques. Certains de ces mots sont attestés dans la littérature antique, mais généralement dans des contextes où c'est pas tout à fait clair ce à quoi ils renvoient. Et notamment, c'est pas tout à fait clair si les anciens pensaient la miniature comme une catégorie à part entière.
Les anciens, tu veux dire donc les gens qui vivaient à l'époque, c'est
ça ? Les gens de l'Antiquité, oui.
Oui, donc là, j'imagine que les textes t'aident pas forcément, mais te permettent d'interpréter et d'expliquer.
Voilà.
Donc on voit que tu as pas mal de difficultés dans tes recherches, mais est-ce que tu as aussi des bonnes surprises parfois ?
Oui, j'ai eu des bonnes surprises. J'ai fait un voyage en Italie l'été avant-dernier.
Donc en 2022, c'est ça ?
En 2022, pour aller voir plusieurs musées, aller voir plusieurs sites aussi, parce que je m'intéresse beaucoup au contexte dans lequel on a trouvé ces vases miniatures pour essayer de les expliquer. Je suis allé voir un contexte où on a découvert de nombreux vases miniatures qui s'appelle le Valle d'Ansanto. C'est en Campanie, c'est dans les terres de Campanie en Italie. C'est un endroit qui a été décrit dans les sources littéraires comme la bouche de l'enfer.
Ça fait envie, dis donc.
En fait, c'est des sources d'où émanent du dioxyde de carbone et du méthane avec un tout petit peu de soufre. C'est un endroit complètement fou, complètement lunaire en fait. On se balade dans une forêt montagneuse et d'un coup, la forêt s'arrête et dans un trou au milieu du paysage, on a un lac de boue grise. On dirait juste qu'il y a un camion de chez Lafarge qui a lâché sa cargaison là, sa boue. Il y a des bulles qui arrivent à la surface et il y a des panneaux partout. Attention, danger de mort.
Ah, il ne faut pas faire des bains de boue là-bas, en fait.
Non, non, parce que on s'asphyxie. Et il y a des animaux qui s'asphyxient. C'est-à-dire que les animaux viennent boire et ils meurent sur place. Donc, c'est un endroit qui, et encore aujourd'hui, on trouve notamment des oiseaux, mais parfois des sangliers et tout en bas, asphyxiés par le dioxyde de carbone. Et c'est un endroit qui est encore très, très fort.
Dans l'esprit des gens, tu veux dire ?
Ah, mais quand on y va. On comprend pourquoi c'est devenu un lieu de culte. On arrive là et on comprend pourquoi les gens de l'Antiquité qui ne savaient pas ce que c'était qu'une source au dioxyde de carbone et qui ne comprenaient pas comment ça marchait, pourquoi d'où venait tout ce gaz, pourquoi ils ont cru que c'était les portes de l'enfer. Et donc moi j'aime bien ça, j'aime bien ces moments de connexion avec les gens de l'Antiquité. Quand
on a trouvé des offrandes là-bas, c'est ça ?
Alors moi j'en ai pas trouvé, mais on en a trouvé dans la boue, il y en avait.
Donc il y a des gens qui sont allés fouiller dans la boue, mais ça a dû être super dangereux.
Je me suis posé cette question, je ne sais pas comment ils ont fait. Je n'ai pas trouvé l'information.
Avec des masques et tout ça, peut-être ?
Peut-être avec des masques. Vraiment, je trouve ça curieux. Et je n'ai pas trouvé l'information. Si quelqu'un a l'information, je serais ravi de la voir. Parce que oui, ils ont fouillé dans la boue.
Ils sont fous, ces Italiens.
Et donc voilà, moi j'aime bien ces lieux où on vit la même chose, en fait, que les anciens. On est au même endroit et on vit la même chose. Et en fait, on ressent probablement un peu au moins les mêmes émotions. C'est des beaux moments de recherche en archéologie.
Je comprends, oui. Et en ce moment, qu'est-ce que tu étudies ?
En ce moment, je suis en train de terminer mon catalogue. Très exactement, je suis en train de faire les sites de Rome. Voilà, je suis en train de faire le catalogue des sites où on a trouvé des miniatures à Rome.
Donc, il y en a pas mal, j'imagine.
Il y en a pas mal, oui, il y en a pas mal. C'est clairement la ville avec le plus de sites. Donc voilà, en ce moment, je fais Rome. Et ensuite, je vais me mettre plus sérieusement encore à la rédaction de ma thèse. C'est-à-dire que j'étudierai tout en même temps. Pour faire une synthèse du catalogue.
Mais on l'a vu, tu as déjà un peu réfléchi à tes réflexions, à tes hypothèses.
Oui.
Forcément.
Voilà. Je sais à peu près ce que je vais dire dans les grandes lignes. Après, il y a des choses que je vais découvrir à force de faire l'analyse des données. Moi, je trouve ça plus facile, mais c'est la manière dont je travaille, de faire une analyse et d'écrire en même temps.
Faire tout un peu en même temps. Non, mais j'ai une autre invitée, un patient médiéviste, qui m'a dit faire la même chose aussi, c'est plus logique. Et pour ta thèse, donc, tu as eu un contrat doctoral, c'est ça ? Donc tu as été financé pour faire tes recherches ?
Tout à fait, j'ai été financé, je suis chargé d'études et de recherche à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Donc c'est un institut qui se trouve à Paris. Et donc, dans le cadre de ce contrat doctoral, je travaille aussi au projet de recherche de l'Institut, de l'INHA, qui porte, dans le domaine de l'Antiquité, sur la réception de l'Antiquité à l'époque contemporaine.
C'est super intéressant comme sujet.
Voilà, donc il y avait, quand je suis arrivé à l'INHA, deux programmes en cours. Un qui est toujours en cours, c'est le répertoire des ventes d'antiques à Paris au 19e, sur lequel je ne travaille pas, mais mes collègues font un recensement de toutes les ventes aux enchères où on a vendu des antiquités à Paris au 19e siècle, pour retracer la biographie des objets, leur vie, ou à qui ils ont appartenu, etc. Moi, j'ai travaillé sur un projet qui est maintenant terminé, qui s'appelait le Digital Muret, qui était l'édition numérique et l'étude d'une collection de dessins d'antiquités produits au milieu du 19e siècle par un employé de la Bibliothèque nationale qui dessinait des objets de la collection d'antiquités. Le musée a d'ailleurs rouvert l'an dernier.
À Richelieu, c'est ça ?
À Richelieu, exactement. Et donc, ce Jean-Baptiste Muret dessinait des objets qui appartenaient à la collection et des objets qui passaient aux enchères, qui étaient dans d'autres musées, qui étaient dans des collections privées. Et donc, c'est vraiment
une source importante, ça.
Une source importante pour l'histoire de l'archéologie parisienne au 19e siècle.
Et ce programme, est-ce que c'est accessible en ligne ou pas encore ?
Bien sûr, le programme est publié en ligne, en accès libre.
On mettra le lien sur le site, alors.
digitalmuret.inha.fr.
Avant de finir, si on veut connaître un petit peu plus cette période, si on veut connaître un petit peu plus aussi le sujet des offrandes peut-être, est-ce que tu aurais un ou deux conseils de lecture, alors attention, accessibles et trouvables en librairie ou en bibliothèque qu'on pourrait conseiller aux auditeurs et auditrices ?
Sur les offrandes, il n'y a pas grand-chose. Sur l'Italie pré-romaine en général, à vrai dire en français et en accessible, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'il y a, et surtout du point de vue de Rome, par exemple... Rome, naissance d'un empire qui est aux collections Belin Mondes Anciens, c'est de Stéphane Bourdin et de Catherine Virlouvet. Ça parle de ma période, mais du point de vue de Rome. Et ça va parler de l'Italie pré-romaine, en ce qu'elle est en contact avec Rome. Sinon, sur les Étrusques, qui sont quand même le peuple le plus connu de l'Italie pré-romaine, Marie-Laurence Hack a sorti très récemment aux éditions La Découverte, à la découverte des Étrusques. Donc ça permet de rentrer un peu dans l'Italie pré-romaine.
D'accord, bah merci. Bah, je mettrai de toute façon, comme d'habitude, ces références sur mon site. Donc c'est bien de donner des références aussi récentes, parce que parfois on a un petit peu de mal à trouver des ouvrages. Donc là, c'est chouette d'avoir de l'historiographie un peu récente. Alors, pour finir, Yoann, est-ce que tu aurais des conseils peut-être de sujets qui mériteraient d'être plus étudiés, un petit peu comme si tu passais un bâton de relais aux futurs chercheurs et chercheuses qui voudraient peut-être travailler sur la période antique ?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que il y a beaucoup de sites archéologiques qui ont été fouillés, qui n'ont pas été étudiés et dont le mobilier dort dans les réserves des musées ou les réserves des services régionaux de l'archéologie. Et tous ces sites méritent en fait de l'attention. Moi, je fais une thèse qui est très synthétique, où j'utilise beaucoup d'études de sites, mais en fait, les archéologues et notamment les étudiants de master gagnent énormément à étudier des sites en particulier. Et là, il y a matière à faire des années et des années de master, donc oui, faites des études de sites. Faites des masters, faites des thèses sur des sites en particulier, c'est super utile et c'est très formateur et c'est ça en fait l'archéologie.
L'appel est lancé. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les offrandes dans l'Italie pré-romaine, vraiment beaucoup, beaucoup plus. Donc merci beaucoup, Yoann Wall. Vraiment, bonne continuation pour ta thèse et merci encore.
Merci.
Et si vous voulez en savoir plus sur l'épisode du jour, comme d'habitude, allez voir sur mon site. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Il y aura donc des indications bibliographiques, des photos. Allez voir tout ça et profitez-en pour aller écouter les autres épisodes de Passion Antiquité. Voilà, il y en a plein maintenant. Et même, pourquoi pas, allez voir mes autres podcasts Passion Moderniste et Passion Médiéviste et sur des autres flux de podcasts. Donc où que vous écoutiez ce podcast, eh bien, dans votre application, vous cherchez aussi Passion Médiéviste et Passion Moderniste. Et à l'heure où sort cet épisode, alors ce sera très vite périmé, mais je vous le dis, je fais une campagne de financement participatif pour faire un carnet Passion Médiéviste. Et à l'heure où sort cet épisode, elle se termine dans quelques jours, dans très 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 peu de temps. Donc pareil, allez voir sur mon site si ça vous intéresse pour avoir un joli carnet enluminé façon médiévale. Peut-être un jour faire un carnet aussi antiquité, si ça marche bien, on sait jamais. Et dans le prochain épisode de Passion Antiquité, on parlera encore d'archéologie, on parlera encore un peu de romain, mais dans un espace différent, nous serons à Bibracte. Ça vous dit quelque chose? Non? Oui, peut-être. Eh bien, vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Passion Antiquité. Salut !